Un seul Dieu tu adoreras. Je ne suis pleinement moi-même que dans la mesure où je reconnais ma vraie place en face de Dieu. Sinon, comme nous l'avons dit, je reste un être errant sur cette terre, ne sachant ni d'où je viens ni où je vais. Et c'est pour cela que Dieu attache tellement d'importance à ce premier précepte de l'adoration, par où l'homme reconnaît sa dépendance totale à l'égard de Dieu et rentre dans une relation intime et personnelle avec son Dieu créateur et père. Sans l'adoration réservée à Dieu, nous le verrons, au lieu de s'ordonner vers Dieu pour le connaître et l'aimer, l'homme se replie sur lui-même. Il a du mal à entrevoir un Dieu lointain imaginaire, alors il préfère tendre la main vers ses semblables, en les aimant, les aidant, en s'oubliant pour eux. Alors, la vraie religion n'est plus d'adorer un Dieu inconnu qu'on ignore, mais de se livrer à ses frères pour les sauver, pour les unir dans une même communion. Subtile substitution, surtout lorsque l'image de Dieu en nous est celle d'un Dieu terrible, gendarme, prêt à punir. Or, l'amour de Dieu et du prochain ne font qu'un, car sous ces modes différents, spécifiquement, c'est le même amour. L'acte d'adoration ne peut être aboli au profit d'une pure entraide humaine. Au contraire, c'est Dieu qui se sert de l'adoration la plus silencieuse, la plus cachée, la plus spirituelle, pour me permettre d'aimer plus mon prochain. Car paradoxalement, c'est dans la dépendance que je deviens vraiment libre. Je suis libre en dépendant de Dieu. La religion nouvelle du surhomme qui se sauve par lui-même et qui sauve ses frères, celle de ceux qui pratiquement proclament la mort de Dieu, comme Nietzsche, sous prétexte de libérer l'homme, en fait l'asservit, en le rendant dépendant de réalités égales ou inférieures à lui. Dieu lui-même nous le dit et nous l'enseigne avec force dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël est en Égypte, sous le joug tyrannique du Pharaon. Pharaon, c'est le signe de la grandeur de l'efficacité humaine. Ce peuple est réduit en esclavage, esclavage de la gloire terrestre, de la richesse, de l'abondance, du bien-être humain de l'Égypte. Et Dieu veut arracher son peuple. Exode 3, versets 7 et 8, « J'ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. Je connais ses angoisses. Je suis résolu à le délivrer de la main des Égyptiens et à le faire monter de ce pays vers une contrée plantureuse et verte, vers une contrée où ruisselle lait et miel. » Et c'est par l'adoration pendant 40 ans dans le désert que Dieu va rééduquer son peuple, lui apprendre sa vocation. Le contact prolongé avec la richesse et la puissance avait détourné Israël de son Dieu. Dieu veut conduire son peuple au désert, et par là, par l'adoration, lui redonner sa dignité d'élu, de préféré de Dieu. Dieu nous fait parfois traverser des déserts, mais il préfère que nous allions volontairement et régulièrement au désert, par nous-mêmes, pour le trouver dans l'adoration. Au lieu de s'exalter sans Dieu, par l'adoration, la créature disparaît en face de Dieu, car elle n'est pas digne de se tenir vivante en face de son Dieu. Aucune créature ne peut voir Dieu sans mourir, déclare l'Écriture. Maintenant, regardons quelques précisions utiles pour notre culte, de façon pratique. Rappelons que l'adoration est réservée à Dieu seul, car lui seul est au-dessus de tout, par-dessus tout, premier, et parfait comme créateur et père. La superstition, c'est une déviation du culte rendu à Dieu. Elle éclate dans l'idolâtrie, ainsi que dans les différentes formes de divination et de magie. Il y a aussi l'action de tenter Dieu, c'est-à-dire de lui demander des miracles sans nécessité et juste pour mettre à l'épreuve sa toute-puissance. Ou encore le sacrilège et la simonie, qui sont des péchés d'irreligion, interdit par le premier commandement. Distinguons aussi l'adoration de Dieu de la dulie, c'est-à-dire la vénération des saints, de l'hyperdulie, qui est la vénération liée à la Vierge Marie, et de l'iconodulie, qui est la vénération des images. Ce sont des manifestations de dévotion religieuse, mais liées indirectement à Dieu. Les images, comme les reliques, peuvent être vénérées, mais elles ne sont pas l'objet d'un culte. Le Concile de Trente nous a mis en garde contre ce type de dérive. De façon pratique toujours, voyons comment l'adoration éveille et fait grandir en moi le sens du sacré. Il y a des lieux, des temps, des objets sacrés, c'est-à-dire réservés à Dieu ou que Dieu se réserve. Ils lui appartiennent, car soit sa présence les rend sacrés, soit l'homme les donne, les consacre à Dieu. Dieu dit ainsi à Moïse, s'approchant du buisson ardent, « Ôte tes sandales, car la terre que tu foules est sacrée. » Nos églises, nos sanctuaires, nos autels, nos tabernacles, même nos vases liturgiques sont sacrés. Ils sont demeures de Dieu et lieux consacrés exclusivement à la rencontre entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Le contraire du sacré, c'est le profane, c'est-à-dire le lieu dédié à l'homme et à la rencontre avec son semblable, avec ses affaires. Quel lieu pour quelles affaires? Jésus dira à ses parents qui le cherchent dans la caravane et le retrouvent enseignant dans le temple, qui est un lieu sacré, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Oui, le temple, l'église, l'oratoire, ce sont des lieux sacrés. J'entre dans un lieu sacré. J'ôte les sandales de mes pieds, au moins de façon figurée. C'est-à-dire, je me consacre aux affaires du Père. Je viens pour les affaires de Dieu. Et mes affaires, elles sont à l'extérieur. À ce sens du sacré, toute ma personne est invitée à y participer, donc aussi mon corps. Et cela se voit dans l'adoration. Par exemple, la génuflexion, c'est-à-dire le fait de mettre un genou à terre en signe d'adoration, à distinguer du fait d'être à genoux, qui est une attitude commune à la prière et à la supplication. Il y a aussi la prostration, où notre corps se penche sur la terre. Eh bien, tous les deux, génuflexion, prostration, ce sont des signes qui révèlent une certaine soumission de notre personne, et donc ne conviennent pour nous que par rapport à Dieu. Je fais une génuflexion devant la présence de Dieu, manifestée pour moi par la présence réelle dans le tabernacle, et je me prosterne devant sa présence exposée, pour nous l'exposition du Saint-Sacrement. Pratiquement, et nous centrerons nos prochains enseignements sur la pratique de l'adoration, nous qui sommes devenus enfants de Dieu par sa grâce, reconnaissons que très souvent nous ne voyons pas l'importance de l'adoration dans notre relation avec Dieu, ni ne savons bien quelle est la meilleure façon d'adorer. L'adoration n'est pas la prière, des demandes, ni même des actions de grâce pour les bienfaits reçus. Elle est la reconnaissance de la gloire de Dieu, l'expression de l'admiration de sa majesté et l'humble soumission du cœur, de notre cœur, devant sa grandeur. Nous devons comprendre l'importance de l'adoration dans notre relation à Dieu et apprendre à l'adorer. C'est un acte entièrement désintéressé. On n'adore pas Dieu pour demander ni recevoir de Dieu quelque chose. Cela, c'est la prière qui va suivre l'acte d'adoration. On parle parfois de prière d'adoration, mais l'adoration va au-delà donc de la prière, au-delà même des actions de grâce ou de la louange dont elle peut être remplie par la suite. L'adoration exprime les sentiments que l'on ne peut pas toujours définir, mais qui montent de notre cœur lorsque nous sommes remplis d'admiration, d'émerveillement, en découvrant la grandeur de la gloire de Dieu. Nous nous prosternons, nous inclinant devant lui, reconnaissant sa souveraineté, sa grandeur, sa majesté, celui qui siège sur un trône infiniment élevé par rapport à nous. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Apocalypse 7, verset 11. Adorer, c'est rendre témoignage à Dieu, à cause de ses perfections invisibles, de sa puissance éternelle, de sa divinité, de sa sainteté, et surtout pour son amour manifesté dans le don de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, comme nous le voyons à chaque réflexion, comment pratiquement progresser ce mois-ci ? Une piste, une proposition. Jésus nous dit en Saint Luc, au chapitre 12, verset 34, « Là où est ta richesse, là sera ton cœur. » Quelle est vraiment ma richesse ? Là où j'en suis aujourd'hui et dans la vérité pratique de ma vie. Une intention de prière possible à porter ce mois-ci. Je confie à Dieu les hommes qu'ils ne connaissent pas, et plus encore ceux qui le rejettent intellectuellement ou pratiquement, pour qu'ils reçoivent la révélation de son amour de Dieu Créateur et Père. Quelques textes dans la parole de Dieu pour méditer sur l'adoration. Dans la Genèse, chapitre 17, les versets 1 à 3. Au livre de l'Exode, les chapitres 20, versets 2 à 6. Et 34, versets 5 à 8, les psaumes 8 et 19 en particulier, Isaïe le chapitre 6, Ézéchiel, premier chapitre, versets 26 et autres versets suivants, en l'évangile de Matthieu, chapitre 2, les versets 10 et 11, chapitre 14, verset 33, chapitre 28, verset 17, dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 11, en Luc, chapitre 2, verset 8, et l'Apocalypse, dans les chapitres 4 et 7. Oui, Dieu attend et seul mérite notre adoration. Alors, entrons avec toute notre personne en sa sainte présence, dans sa demeure sacrée. Mettons-nous en sa présence et adorons-le avant que ne débute notre prière. Jésus, Sin Deus.